Nous sommes le jeudi 8 février, il est 21h sur Radio Canu. Bienvenue dans le nerf de la game. Le nerf de la game, l'émission qui aborde le monde du jeu vidéo par sa face alternative. Chaque semaine ou presque, vous retrouvez ici un cocktail d'actualité sur les rouages de l'industrie du jeu vidéo et sur les titres qui attisent notre curiosité, surtout du côté indépendant du paysage vidéoludique. Comme chaque semaine, vous êtes avec l'équipe fidèle composée par Romain. Salut Romain.
Salut Xavier.
Et par moi-même, Xavier, est-ce que tu vas bien?
Bah écoute, ça va pas mal.
Il me semblait que on avait prévu des invités pour cette semaine.
Ah, tu m'avais dit qu'il y a des gens qui devaient venir.
C'est ça. Eh ben, je t'annonce qu'ils viendront la semaine prochaine.
Bah, c'est une bonne nouvelle.
Voilà, et on vous indiquera en fin d'émission ce que c'est, mais on parlera d'une initiative locale qui s'appelle l'Indie Game Lyon, dont on parlera avec ses organisatrices la semaine prochaine. Mais en attendant cette semaine, on a un programme un peu chargé. Vu qu'on va parler de Microsoft en plein dégraissage, on parlera d'un événement qui s'appelle le Steam Neo Fest qui est en ce moment en cours et qui va s'arrêter donc jusqu'au 12 février.
Le 12,
jusqu'au 12 février. On fera une petite brève sur Spec Ops The Line. On parlera du préavis de grève chez Ubisoft. Si on a le temps, on parlera du nouveau parc d'attractions de Disney.
Tout à fait.
Si on a le temps.
Ça peut vous paraître étonnant dans le contexte dont on vient de parler, mais c'est complètement dans l'esprit de l'émission.
Parlons de l'annonce de fin janvier, on a appris que Microsoft avait licencié 1900 personnes. Alors, plutôt que de faire un commentaire dessus, je vais vous lire le communiqué de la traduction du communiqué de Phil Spencer. Phil Spencer étant le PDG de la section jeux vidéo de Microsoft. Cela fait un peu plus de 3 mois que les équipes d'Activision, Blizzard et King ont rejoint Microsoft. Alors que nous allons de l'avant en 2024, la direction de Microsoft Gaming et d'Activision Blizzard s'engage à aligner sa stratégie et son plan d'exécution sur une structure de coûts durable qui soutiendra l'ensemble de notre activité en croissance. Ensemble, nous avons établi des priorités, identifié des domaines de chevauchement et veillé à ce que nous soyons tous alignés sur les meilleures opportunités de croissance. Dans le cadre de ce processus, nous avons pris la douloureuse décision de réduire la taille de notre effectif de jeux vidéo d'environ 1900 postes sur les 22 000 personnes de notre équipe. L'équipe de la direction des jeux et moi-même nous engageons à naviguer dans ce processus aussi soigneusement que possible. Les personnes touchées par ces réductions ont toutes joué un rôle important dans les succès d'Activision Blizzard, ZeniMax et les équipes Xbox et peuvent être fières de ce qu'elles ont accompli. Nous sommes reconnaissants pour toute la créativité, la passion et le dévouement qu'elles ont apporté à nos jeux, à nos joueurs et à nos collègues. Nous fournirons notre soutien complet aux personnes touchées pendant la transition, y compris des indemnités de départ dans le respect des lois locales sur l'emploi. Les personnes dont les rôles seront touchés vont en être informées et nous vous demandons de traiter vos collègues qui partent avec le respect et la compassion conformes à nos valeurs. Dans l'avenir, nous continuerons d'investir dans des domaines qui feront croître notre entreprise et appuient notre stratégie visant à offrir plus de jeux à plus de joueurs dans les mondes. Bien que ce soit un moment difficile pour notre équipe, je suis confiant plus que jamais dans notre capacité à créer et nourrir les jeux, les histoires et les mondes qui rassemblent les joueurs. Signé Phil.
Va te laver la bouche. Tu as dit des trucs horribles pendant à peu près 5 minutes.
Si un certain nombre de ces... c'est moi qui parle. Il y a un certain nombre de ces licenciements qui vont affecter effectivement Xbox et Bethesda qui avaient été rachetés pour 7 milliards à l'époque. Une paille. une paille par Microsoft. C'est surtout les employés d'Activision et Blizzard qui sont les principaux concernés. Bon, on parle pas de Bobby Kotick, hein, parce que lui, il s'était barré bien avant.
Oui, c'est pas vraiment un licenciement.
Non, parce que
pas prévu.
Oui, non, parce que lui, à partir du moment où le rachat a été fait, il est parti avec un gros chèque bien fat.
Quoi, 75 millions, c'est ça?
Oui, non mais.
Quoi?
Non mais oublie les dividendes. T'oublies oui, les dividendes. Bon. Ça c'est avant, c'est hors taxe. Voilà. Parce que waouh, il prend beaucoup plus. Voilà, il a déjà, en fait, il s'était déjà barré dès que l'acquisition a été validée, après avoir avalé une dernière coupe de champagne, évidemment. Et non, mais en fait, c'est surtout un grand classique de l'acquisition. Elle a provoqué un grand nombre de doublons, notamment dans les services support, hein, ce qu'on appelle les fonctions support, donc tout ce qui est administratif, comptabilité, facturation, RH, etc.
Mais c'est pas que eux qui ont été touchés.
Oui, mais en tout cas, eux ont été touchés en majorité. Voilà, surtout en fait, ce qui a été enlevé, ça va être toute la partie physique, distribution physique de Xbox, donc distribution de jeux en modèle physique, hein, les boîtes qu'on peut aller trouver chez Micromania par exemple, ou chez dans les magasins. Voilà, ou dans les magasins, et ben ça, effectivement, Xbox a décidé de largement réduire la voilure, voire à se demander s'ils vont pas décider d'arrêter complètement la distribution physique.
Ça irait avec leur décision récente.
Exactement. Et voilà, en fait, la nouvelle, je pense que surtout, elle doit être assez vénère pour les employés d'Activision Blizzard, parce que chez Activision Blizzard, ils ont déjà connu des grosses vagues de licenciements en 2019 et en 2021. Donc, on va dire des gens qui avaient échappé aux deux vagues, et ben là, hop, encore rattrapés par la lame finale. Voilà. Et sachant que Activision Blizzard, avant d'être intégré à Microsoft, restait sur des bénéfices records. Et comme un bon feuilleton ne se termine jamais, aujourd'hui, on a appris que la Federal Trade Commission, hein, donc celle qui avait lutté contre le rachat de Activision Blizzard par Microsoft, a annoncé hier entamer une nouvelle procédure contre Xbox, la partie Microsoft Gaming, suite aux 1900 licenciements au motif de monopole et donc pour par rapport à leur loi antitrust. J'ai pas lu encore tous les détails de la plainte ni le retour des avocats qui ont été faits, mais affaire à suivre, parce que c'est vrai que la FTC versus Activision Blizzard Microsoft, ce serait dommage, on aurait presque pu terminer, quoi, c'est dommage.
Mais du coup, il y a eu une très légère, une réaction très rapide là que je peux vous citer.
Oui.
Microsoft a répondu que Activision Blizzard avait déjà prévu ces licenciements massifs, que l'acquisition se fasse ou non. Je voulais se juger
C'est parfait. C'est-à-dire que en gros, ils étaient dit que en gros, même s'il n'y avait pas eu d'acquisition, ils auraient viré toutes leurs fonctions support. C'est un petit peu gros, non?
Alors, dans le mastodonte Activision Blizzard, il y a aussi des studios, enfin, ou des divisions qui ont été touchées par ces licenciements.
Oui.
Et je pense qu'il évoque plutôt ceux-là.
Oui, non, parce que parmi les 1900, de ce que j'avais compris, quand même, il y en a quasiment plus d'un tiers. C'est les fonctions support qui sont déjà assurées chez Microsoft, quoi.
C'est toute la question. C'est là que c'est difficile. Quand tu dis on est un groupe, on est une seule entité, de dire il bossait sur tel jeu, il travaillait sur tel truc, même si Activision possédait ou travaillait avec différents studios pour les Call of Duty, qui étaient des entités plus ou moins indépendantes parfois, enfin, qui faisaient partie de l'ensemble ou non, il y a eu un petit peu des. Voilà, je pense qu'il y a aussi des choses comme ça qui peuvent être. Justifié entre guillemets en disant non, ça concerne que telle partie ou que telle.
Très honnêtement, la seule partie que je trouve, je vais même pas dire justifiée, je veux dire potentiellement compréhensible, c'est les doublons sur les fonctions support. Mettons, même si je pense que pour des groupes qui gagnent autant d'argent, il y a moyen de se structurer pour pas faire autant de dégâts d'un point de vue social. Mais pour le reste,
il y en a qui sont structurés. La CWA. nos amis du syndicat.
Ah, effectivement.
CW, rappelle-moi, Computing Workers Association ou un truc dans le genre.
C'est ça.
C'est ça. Donc, un syndicat donc, spécialisé dans la tech, globalement, des développeurs, et qui, eux, au moment de l'annonce des 1900 licenciements, se sont fendus d'un petit communiqué pour dire les gens qui étaient syndiqués chez nous, ils n'ont pas été touchés par ces licenciements.
C'est ça.
Voilà, donc à prendre comme on a envie. Hein. Est-ce que c'est un appel aux gens à se syndiquer chez eux? Est-ce que c'est un détachement envers ceux qui ne l'étaient pas, justement, alors que leur but, c'est de défendre les travailleurs dans leur ensemble et pas
Ouais, apparemment, là, c'était vraiment défendre juste leur...
La question, c'est ça aussi. Est-ce que certains ont été licenciés parce qu'ils ne faisaient pas partie du CWA? Ou est-ce que c'est le CWA qui a négocié? Et voilà, c'est beaucoup de choses qui sont, d'après Microsoft, prévues depuis longtemps, donc on va savoir. Et effectivement, si on parle de gens licenciés, licenciements qui étaient prévus, c'est relativement logique que les membres de la CWA ne soient pas concernés, puisque les syndicats chez Activision Blizzard, c'était pas un gros mot, hein, c'était une insulte.
C'était un tabou, hein, c'était un motif de licenciement, en fait, littéralement.
C'est ça, donc c'est d'autant plus logique que les membres d'un syndicat n'aient pas été touchés par ces licenciements, parce que de toute façon, ils ne faisaient pas partie des structures concernées.
C'est ça, en gros, on va dire que... S'il y en avait qui étaient dans les sections distribution de Xbox, peut-être qu'ils n'ont pas été touchés, mais pour les autres, oui, forcément.
Ils n'étaient pas à l'abri.
C'est ça.
Mais on parle de 1900 licenciements sur quoi c'est 10 000, 20 000
22 000.
22 000.
22 000, donc on est sur...
on est sur... moins de 10%.
Ouais, on est sur 8%, ouais.
Ouais.
8%. Est-ce que tu as, est-ce que tu étais au courant que le Steam Neo Fest avait commencé cette semaine?
Ah d'accord, donc c'est transition, plus rien à foutre.
Oui.
Ok. Oui, j'étais au courant. J'étais au courant parce que le Steam Neo Fest, donc c'est un festival de démo,
oui,
globalement, où les développeurs et les studios sont invités à présenter leur jeu en proposant des versions jouables,
oui, de démonstration sur la plateforme Steam, donc la plateforme PC.
C'est ça. Et du coup, en fait, oui, j'étais au courant pour une raison simple. En fait, c'est que le Steam Fest en lui-même est censé se dérouler du 5 au 12 février.
C'est ça.
Et quasiment tout le monde balance sa démo avant, déjà auprès des influenceurs, auprès des journalistes et parfois auprès du public en même temps, pour commencer avant. Et certains vont également laisser leurs démos disponibles après
aussi,
après le fest.
Et il y a même qui
difficile de le savoir à
l'avance. Et il y a même qui vise, en fait, de façon assez maligne, des sorties le lendemain de la fin du Steam Neo Fest.
Ou au début.
Ou au tout début aussi, effectivement.
Tout à fait.
Pour le coup, dans le nerf de la game, c'est un événement qu'on aime beaucoup suivre. On est très fan de nouveaux jeux, c'est très souvent des jeux indés, mais même si des fois il y a des jeux aussi
oui,
de triple A mainstream, oui, qui sont là aussi.
Ou des double A ou
des double A, voilà. Oui. Mais c'est globalement plutôt un gros terroir à jeux indés. Oui. C'est marrant aussi de voir aussi les tendances, c'est-à-dire qu'il y a quelques années c'était unique, qu'il y avait énormément de deck builders. Là, ça s'est un tout petit peu calmé, mais si on a beaucoup, mais c'est plutôt cette année, j'avais l'impression de voir des Metroidvania partout, et des jeux de survie partout, des survival.
Tu veux dire que Palworld aurait donné des idées aux gens?
Je pense que non. Je pense que c'est malheureusement, c'est pas Palworld.
Non, c'est d'avant, ouais.
Non, mais je pense que voilà, des jeux comme Rust, comme Son of Forest, comme des trucs comme ça, Ark et tout ça, ont bien marché, ouais.
Mais effectivement, oui, c'est un genre qui est pour l'instant, en tout cas, encore très très en forme.
Et ben, justement, peut-être qu'on fera un bilan de ça, soit la semaine prochaine si on a le temps, ou plutôt la semaine suivante, on verra bien.
Oui, avoir un petit peu.
Je vais être transparent, j'ai pas eu le temps de tout tester ce que j'ai pu, même s'il y a 2-3 trucs que j'ai vus qui sont déjà bien intéressants. Mais j'aimerais quand même juste balancer quelques noms. Si jamais, parce que comme tous les développeurs sont invités à participer, il y a littéralement des milliers de démos.
Oui, il y en a un peu plus que d'habitude.
Il y en a littéralement. Cette année, il y en a une tétrachie.
Moi qui suis un petit peu ça de près, des démos, il y en a toute l'année. Ouais. Avec des fois, elles sont disponibles pendant un temps limité, etc. Hors période de festival qui sont donc spécifiques à ça. Mais effectivement, là, il y a une augmentation de l'offre, clairement.
Eh ben, c'est pour ça que je veux juste balancer quelques noms, sans forcément dire si c'est bien ou pas, juste aller les checker. Je te laisse commenter si jamais tu as quelque chose. D'abord, celui que j'attendais personnellement et que j'ai été démo que j'ai pu tester, un point and click s'appelle Harold Halibut, qui est fait en stop motion. En gros, imaginez une techno, un rendu qui ressemble à celui des films d'animation de Wes Anderson, donc les Mr. Fox. C'est Mr. Fox Fantastique ou L'île aux chiens par exemple. Ça ressemble plus à ça qu'à des studios Hardman, donc voilà.
Mais clairement c'est de la pâte à modeler.
C'est de la pâte à modeler, oui, voilà.
Filmé image par seconde.
C'est ça.
Les gars ont fait ils mettent des années en fait à développer leur jeu.
Ils ont mis, je pense, 10 ans à réaliser leur machin. J'ai joué à la démo, c'est très convaincant. Quand on fera un débrief, on regardera tout ça, et puis voilà. Comme jeu aussi avec une petite hype, un dénommé Pacific Drive, qui est une sorte de. Qui semblait se présenter comme un jeu narratif, comme un walking sim, mais pas en walking, parce que plutôt en voiture, un driving sim peut-être.
Ouais.
Voilà, et qui apparemment embrasse beaucoup les mécaniques de craft survival. À voir. Voilà. Un nom de l'ancien temps. Homeworld 3.
De l'ancien temps revisité, du coup.
Oui.
Parce que du coup, Homeworld 3, enfin, Homeworld le premier, je crois que c'est 98.
Ouais, c'est ça, l'ancien temps quand même.
99.
Voilà. Homeworld 3, hein, donc jeu de stratégie dans l'espace, jeu de stratégie spatiale. Très, très, très apprécié à l'époque. Grosse claque quand il était sorti, quand il était sorti en 2000. Fallait
un PC. De stratégie temps réel, ouais.
Fallait un PC du démon pour le faire tourner, je me souviens.
Ah, pas de temps.
Oh, si. À l'époque, fallait un PC du démon. Autre jeu, je pense sorti en 98 aussi. Outcast New Beginning.
Ah, donc, qui est la suite du remake.
Oui, bon, sachant que le remake est...
de 2017,
voilà.
Par le même studio qui fait la suite.
C'est ça. J'ai téléchargé la démo, on va voir ce que ça donne. Le remake était pas ouf.
Mais parce que le jeu, ils ont vraiment repris le jeu de base. Qui était novateur, ce que tu veux, en 98. Bon, bizarrement, 25 ans plus tard, ça n'a pas exactement le même sens.
C'est autre chose. Ensuite, on va parler de Metroidvania. D'abord, Nevergrave. Nevergrave, qui est donc le Hollow Knight avec une moustache par les créateurs de Palworld.
Alors, c'est déjà un Rust Arc avec une moustache.
Oui, voilà, c'est ça.
Et des Pokémon avec une moustache.
C'est ça.
C'est beaucoup de moustaches. Hein.
Oui, il y a beaucoup de moustaches. Alors, le truc, c'est que des gens disent « Oui, ben, y a du multijoueur et tout. » Mais bon, en termes de mécanique solo, c'est Hollow Knight. Ok. Pour sa défense,
visuellement un petit peu aussi.
Visuellement aussi. Pour sa défense, la moitié des Metroidvania qui sont sortis en démo, c'est Hollow Knight avec une moustache. Hein, donc, voilà. Vu qu'on est toujours sur le Metroidvania, alors pour rappel, le Metroidvania, de manière générale, ce sont des jeux qui ont l'air, qui ressemblent à des jeux de plateforme en 2D de vue de côté, avec soit des mécaniques de plateforme, soit des mécaniques de combat.
Souvent les deux.
Après voilà, certains qui mettent plus l'accent sur l'un, plus l'accent sur l'autre. Typiquement, Ori, c'est beaucoup plus l'accent sur la plateforme. Mm-hmm. Voilà.
Et avec une logique de
progression,
je vais débloquer un pouvoir, une possibilité qui va m'ouvrir une nouvelle zone qui n'était pas accessible avant.
C'est ça.
C'est pour ça que certains se posent la question de donner un nouveau nom à ce Metroidvania qui finalement emprunte de Metroid
et de Castlevania.
Et de Castlevania, donc des jeux qui sont millénaires maintenant.
C'est ça.
Mais voilà. Okay.
C'est ça. Et dans le même style, je voulais citer Tale of Skenzera Zao, qui est un jeu EA original qui sort le 13 avril.
Je savais que tu étais vendu au triple A.
Mais évidemment, évidemment. Mais je m'en fous, c'est un triple A qui coûte moins cher que le dernier triple A de Ubisoft, qui est aussi un Metroidvania.
On en parlait tout à l'heure.
Oui, c'est ça. en gros, même style, à la différence que j'aime beaucoup la DA et j'aime beaucoup le fait que ça s'inspire de légendes africaines et de façon respectueuse. Et c'est pas si souvent le cas dans le monde du jeu vidéo.
Non. Après, pour revenir là-dessus, Prince of Persia est peut-être le Prince of Persia qui respecte le mieux la culture perse.
Oui, oui, là-dessus, d'ailleurs, il est doublé en farsi, si j'ai pas de bêtises.
Aussi. C'est le premier. Prince of Persia, où le prince, où le personnage principal parlera.
D'ailleurs, je crois que la démo est encore disponible. Il me semble, en tout cas, j'avais joué à la démo il y a 2-3 semaines, donc je pense que la démo est encore disponible. Toujours côté Metroidvania, parlons de Ultros, lui qui se distingue surtout par sa DA absolument psychédélique.
Oui, je vois.
Et ses principes où tu dis, oui, il y a de la baston, mais c'est vraiment pas que ça. C'est beaucoup essayer de comprendre ce qui se passe, essayer de comprendre où t'es. Ça a l'air d'être un bon gros trip sous LSD quand même, celui-là. Rien que pour ça, je pense que voilà, j'ai pas encore joué, mais ça mérite, je pense, de regarder. Un jeu pour toi, Romain? Synergie.
Et oui, un petit jeu français.
Oui.
Qui a un style Mobius complètement assumé. Et qui est un city builder survival. Donc on doit faire survivre une colonie de gens dans un monde post-apocalyptique.
Ouais.
Avec vraiment une forte, forte identité visuelle inspirée de Mobius.
Ouais. Et pour moi, en fait, c'est un city builder post-apo, pour moi, en fait.
Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, il est classique dans ce que propose la démo. Il a quelques idées, on va dire, pas forcément très originales, mais intéressantes. La démo permet pas d'aller beaucoup plus loin dans l'analyse, mais tout le monde n'est pas complètement convaincu. Je pense à Julien, qui est venu régulièrement dans cette émission discuter avec nous, qui est pas ultra, qui est pas convaincu par certains aspects. Moi, j'ai pas de crainte particulière. J'attends de voir un petit peu ce que ça va donner. Mais oui, pour un projet francophone, c'est intéressant.
Moi, il m'a fait penser un peu à Pharaon dans certaines de ses mécaniques.
Oui, c'est ça, avec des zones, en fait, des bâtiments qui ont un effet sur les bâtiments autour de lui, dans une certaine zone. C'est la logique d'anneau, c'est la logique de beaucoup de city builders.
C'est ça.
À voir.
Sinon, qu'est-ce que dans ma liste? J'avais le dénommé Lisfanga The Time Shift Warrior. Est-ce que ça te dit quelque chose?
Oui, mais je sais plus pourquoi.
Alors, Lisfanga The Time Shift Warrior, c'est un hack and slash avec aussi des où notre personnage a des pouvoirs temporel, ce qui lui permet en fait de recommencer en fait plusieurs fois la même action dans différentes, ce qui lui permettre en une action de nettoyer une salle complète.
D'accord.
C'est-à-dire que mettons que tu arrives dans une salle, tu vas d'abord commencer une ligne où tu vas taper des gens, tu vas recommencer la première. Et ensuite, tu vas faire une deuxième ligne pendant que la première ligne est en train de s'exécuter, etc., etc., etc.
Donc, tu multiplies les timelines.
C'est ça.
Plus que revenir en arrière parce que t'as fait une erreur. Comme dans un Life is Strange.
Sauf que dans Life is Strange, par exemple, tu vois pas ton personnage faire plusieurs choses à la fois.
C'est ça, mais complètement, c'est ça.
Là, tu vois en fait toutes tes timelines qui se déroulent en même temps.
C'est ça, et c'est la différence avec les jeux que je connais, Prince of Persia, les sables du temps, où le sable du temps te permet de revenir en arrière.
Disons qu'on est plus sur quelque chose qui ressemble à Braid. On va dire.
Ouais, voilà, où on multiplie les futurs.
C'est exactement. Et si tu as entendu parler de ce jeu, c'est parce que c'est le jeu qui avait reçu. Ah, c'est vrai qu'on aurait pu faire un sujet là-dessus. Reçu le Pégase 2022 du jeu étudiant.
2022.
Et oui.
Ok.
Et ce jeu est désormais édité par Quantic Dream. Et il sort le 13 février.
Ok. Donc les Pégases, on en reparlera parce que ça se déroule le 7 mars.
Ouais, c'est ça. On en parlera, je pense. Le mieux, c'est qu'on réserve le tout pour le 7 mars. Mais on a déjà 2-3 trucs à dire sur la chose.
Alors, on parlera pas beaucoup de jeux parce que c'est toujours les mêmes. Mais
bah, il y en a 4, donc ça va aller vite. Mais voilà, j'ai quasiment terminé ma liste.
J'en ai quelques-uns si ça te.
Je finis juste ma liste par un jeu qui s'appelle Lumine Knight. Un tout petit jeu qui est une sorte de mélange entre Ace Attorney et Layton.
Ok, donc de l'énigme et de l'enquête.
Bon, de ce que j'ai vu de la démo, le jeu a des contrôles qui sont pétés pour l'instant, pas de souci. Par contre, en fait, il y a toujours ce côté où en fait c'est des jeux qui utilise l'esthétique, on va dire, manga pour être grossier. Et souvent, c'est facile de faire la différence entre les jeux avec l'esthétique manga qui est bancale et celle où tu te dis c'est propre et ça fonctionne.
Ouais.
C'est des fois, tu vas dire, ouais, il y a des. Tu vois, c'est mal intégré, c'est machin. Là, c'est d'une propreté impeccable. Okay. Et je trouve que les mécaniques de jeu sont vraiment intéressantes et que c'est un truc qui me chauffe très bien, de façon très intéressante. En plus, c'est un jeu qui est auto-édité. Un jeu coréen auto-édité.
Okay.
Donc, en gros, on sera 10 à y jouer en Occident.
Voilà.
On sera 10 à y jouer en Occident. Mais il y a une version en anglais. Donc, voilà, on pourra sûrement en faire quelque chose. L'avantage de la Corée par rapport au Japon ou à la Chine, par exemple, c'est que l'anglais, c'est un peu mieux maîtrisé.
Oui. Moi, je voulais citer rapidement Indica.
Indica. Ah, je l'avais, le Devolver, c'est ça?
Alors, non, c'est 11-bit Studio. 11-bit Studio. Donc
ah, c'est 11-bit. Pourquoi j'ai dit Devolver? C'est autre chose. Pardon.
Frostpunk. Oui. Pour être rapide. Et This War of Mine. Oui. Voilà, pour être rapide. Mais c'est un jeu, en fait, d'aventure dans une Russie du fin 19e.
Au sein de l'église orthodoxe.
Oui, alors, il y a un mélange, effectivement, de côté religieux. Et puis, par moments, il y a des grands tripes complètement sous LSD avec de la techno derrière. Enfin, c'est très, très particulier, il a une esthétique intéressante. C'est difficile d'en savoir plus avec la démo, mais en tout cas, c'est très intriguant et c'est très particulier. Mmh. Alors, c'est évidemment, vu le sujet, un studio russe qui s'est exilé au Kazakhstan au début de l'invasion de l'Ukraine et qui va refiler une partie de ses revenus avec le jeu à des associations de ukrainiennes. Mmh. Voilà, donc c'est un studio qui s'est exilé parce qu'il n'était pas d'accord avec la politique russe. Voilà, juste pour. Mention.
D'accord.
Okay. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah oui, moi j'avais Synergy aussi, évidemment. Paper Grinder.
Oui, ça c'est Devolver.
Ça c'est Devolver.
Ça c'est Devolver et c'est en gros un jeu de taupe.
Ouais, c'est ça. Tu transformes en taupe en fait, donc tu as une sorte de gros forêt.
Oui, c'est ça.
Pour creuser en fait, et tu vas creuser pour aller récupérer des trucs et te déplacer super vite sous la terre, ressortir avec beaucoup de vitesse et beaucoup de force pour tabasser des ennemis aussi au passage, etc. Enfin, c'est super mignon. C'est ton pixel art. C'est très sympa, vraiment très très sympa. Qu'est-ce que j'avais? Children of the Sun.
Oui, je l'avais sur ma liste, mais comme j'avais déjà bien monopolisé, je te l'ai.
Voilà. Et du coup, là, on est dans un shooter puzzler, parce que donc on se donc dans une ambiance très culte, c'est-à-dire secte, où en fait on a été complètement ravagé par une secte et on vient se venger. Et du coup, il faut trouver le bon emplacement pour tirer une première balle sur des gens de la secte, enfin, les méchants. Et à partir de là, il faut trouver le moyen, en fait, d'éliminer tous les ennemis de la zone à partir de l'endroit où va toucher la balle. C'est-à-dire qu'on tire sur quelqu'un, à partir de cet endroit, il faut viser un autre gars, etc. Et donc trouver des angles de tir à partir donc dans un sens.
Oui, non, mais il faut jouer à la balle de Kennedy. Oui.
Et c'est ça, exactement. C'est la balle magique de Kennedy. Mmh. Voilà. Et c'est dans un style visuel assez particulier, assez intéressant. Donc oui, c'est original en tout cas. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi? Il y avait Melilla, Millennia. Qui est le Civilization, édité par Paradox. Paradox Arc, donc sa partie vraiment édition publisher. Mm-hmm. Et donc là, on est vraiment sur du Civilization classique, avec deux, trois petites évolutions, un peu comme Humankind, en fait, mm-hmm. qui propose la même structure, la même base, avec ses propres petites différences. Disons que c'est un jeu qui permet de jouer de plein de façons différentes, plutôt que les premières civilisations où on a quand même souvent les parties qui, enfin, des développements de parties qui se ressemblent. Ce qui n'est pas forcément le cas dans celui-ci, en tout cas c'est leur objectif, de proposer différentes façons de jouer, de façons de faire évoluer sa civilisation. Donc à voir un peu ce que ça va donner. Et puis le dernier que je voulais évoquer, c'est Menace from the Deep, qui est un mm-hmm. deck builder,
okay.
Tour par tour, qui en gros c'est Darkest Dungeon qui rencontre Slay the Spire.
Oh la drogue, ok.
Voilà. Un côté narratif derrière, donc en gros, une société un petit peu occulte qui essaie de comprendre ce qui se passe avec des créatures cthulhesques, lovecraftiennes.
Ouais, etc. Ouais. Typiquement le genre de jeu où, qui t'attrape et qui te ressort après une centaine d'heures. Quoi.
Oui, mais qui a un rythme, organisé par, scénaristiquement. Ce qui n'est pas juste une succession de combats, de rencontres. Voilà, il propose une narration qui va avec. Voilà, encore une fois, la démo est relativement courte, mais elle permet de voir que les mécaniques, en tout cas, fonctionnent pas mal. Donc voilà, et puis il a une esthétique... très sympathique quand on aime les tentacules.
Voilà. D'accord.
Je savais que ça te ferait. Non, très sympathique, très réussi, visuellement.
Un dernier jeu où je sais que Julien, dont on a parlé tout à l'heure, m'en voudra si j'en parle pas, un jeu qui s'appelle Until Zen. Et qui est, soyons clairs, A Space to the Unbound aux Philippines.
D'accord, on se déplace légèrement géographiquement.
Et dans le temps aussi, parce que Space to the Unbound se passe dans les années 90, et là on est plutôt dans les années 2010.
Okay.
Et donc on va suivre, et là on va plutôt parler de spleen, d'adolescence et de deuil, et de romance aussi, avec la même délicatesse qu'on connaît, puisque disons que ce que j'ai trouvé en tout cas intéressant dans la manière d'aborder les choses, c'est ce côté très justement asiatique, japonais, ou non japonais en tout cas, mm-hmm. Qui en fait a une vision assez détachée par rapport à certains sujets, par rapport à ce que nous on connaît, et qui peut justement nous donner une vision un peu différente des choses, une façon différente de traiter justement
ces sujets là,
ces sujets, ce type de trauma. Je trouve ça toujours intéressant.
Ok.
Peut-être qu'on fera un bilan à un moment de tout ce qu'on a vu au NeoFest, mais en tout cas, on a dû citer 15-20 jeux.
Ouais, c'est ça, une quinzaine.
C'est rien du tout.
Oui, voilà, oui. Après, tous ne sont pas spécialement intéressants.
Bah,
tous,
oui,
ne sont
voilà.
même pas prêts forcément ouais, à voilà. la partie du Fest, avec des démos à moitié bancales, à moitié pétées. Bon, c'était le moment, il fallait être là. Il y en a certains qui ont peut-être rushé un peu le travail.
En parlant de c'est le moment, il fallait être là. Bon, alors techniquement, vous aviez 12 ans, mais maintenant, vous aviez 12 ans pour le prendre. Maintenant, c'est terminé. Spec Ops The Line n'est plus disponible.
Et oui.
Vous avez un jeu sorti en 2012 qui m'a profondément marqué. D'ailleurs, je crois que c'est le premier jeu que j'ai acheté sur Steam.
D'accord.
C'est un jeu de guerre, donc voilà, Spec Ops. On a une escouade de trois soldats. On est le capitaine Walker. On a deux soldats avec toi qui constituent une escouade. C'est une mission de sauvetage à Dubaï et on doit aller sauver. Une autre escouade, potentiellement, d'une menace, parce qu'il y a une tempête qui les a.
Oui, qui a frappé la ville.
Qui a détruit
pas mal de choses.
Mais c'est ça.
Mais aussi, il y a une.
Il y a des insurgés aussi qu'il faut gérer, tout ça. Donc.
C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour rien. Enfin, l'armée américaine n'a pas été envoyée là pour
voilà.
rien.
Voilà. À la base, c'était une mission humanitaire.
Oui, les missions humanitaires à l'américaine.
Ouais, voilà. Donc, on se dit, bon, bah, dans l'épreuve. dans les premières minutes, bon, bah voilà, au bout de 30 secondes, on tombe sur des insurgés. Pampan boum boum, bon, un jeu de pampan boum boum classique, comme il se faisait, qui se faisait au kilomètre dans ces années-là, d'ailleurs. Mm-hmm. Sauf que c'est un putain de grand jeu, pas par le gameplay, parce qu'une fois de plus, c'est un cover shooter relativement classique pour ça, mais plutôt par son propos, parce que c'est un jeu violemment anti-militariste. Mmh. Qui use non seulement de sa narration, de l'histoire, de ses choix, et même du côté méta et brise le quatrième mur pour te dire, mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Mmh. En tant que joueur à tirer sur toi, à buter, qu'est-ce que t'es en train de faire? Joueur, ouais. Qu'est-ce que t'es en train de faire, quoi.
Et déjà, tirer sur des insurgés armés, c'est une chose.
Ouais.
Balancer du phosphore blanc sur des civils.
Oh, ouais, mais c'est... après, on peut déflorer, le machin est sorti il y a 12 ans. Mais.
On n'en est plus là.
Mais voilà, mais. Non, c'est. Enfin, avec des scènes qui m'ont marqué. Rien que d'évoquer, j'ai envie d'y rejouer pour me reprendre une claque comme. Non, c'est un très grand jeu.
Et du coup, il est plus disponible
ni sur Steam ni sur les boutiques ni sur les boutiques en ligne sur le Xbox Store, le PlayStation Store, tout ça à cause d'une question de droit. Clairement, ce sont les musiques de Jimi Hendrix de tout début du jeu, mm-hmm. qui ont marqué aussi les joueurs, hein, parce que c'est en gros l'hymne américain joué à la guitare et tout défoncé sur le fond de drapeau américain complètement mité. Bon, si c'est pas clairement voilà.
Disons que c'était effectivement une bonne mise en scène.
Ouais,
clairement. Maintenant, oui, c'est le risque à chaque fois avec les jeux qui utilisent des œuvres du domaine, enfin, avec des ayants droit.
Oui.
C'est-à-dire que souvent, ils négocient des droits pour un certain temps. Et à partir du moment, enfin, quand ce deal arrive au bout. Ou alors il le renégocie pour que le jeu reste en vente, ou alors il ne le renégocie pas et le jeu n'est plus disponible. Dans le cas de Spec Ops, pour l'instant, effectivement, le jeu n'est plus accessible. Maintenant, effectivement, on a eu 12 ans pour l'avoir.
Mais bon, alors voilà, on n'est pas ici des spécialistes de... des spécialistes donc de la préservation des jeux.
Oui.
Mais en gros, tout ce qui est préservation des jeux, en fait, ce sont des gens
qui s'intéressent en fait à ce que l'histoire du jeu vidéo dans son ensemble en tant que média reste accessible. Et effectivement, dans le cas de certains jeux qui disparaissent pour différentes raisons, et les histoires de droits sur les différents éléments composant le jeu en est une. Il y avait eu la question pour Alan Wake.
Oui, c'est vrai.
Qui s'était retrouvé effectivement plus accessible du tout sur les différentes plateformes pour exactement la même raison. Pour des questions de droits sur les musiques utilisées, qui étaient des musiques faites par des groupes, en tout cas pas spécialement faites pour le jeu. Ils avaient récupéré, utilisé des musiques qui avaient été composées pour des albums de groupes. Donc oui, c'est effectivement sur le côté préservation et accessibilité de l'histoire du jeu. C'est une perte. Mmh. Est-ce qu'elle le restera longtemps?
La réponse est non. Pourquoi? Parce que une plateforme a gardé Spec Ops The Line. C'est GOG.
Good Old Games?
Mais oui.
Ils le vendent toujours.
Ils le vendent toujours, et d'ailleurs, actuellement, il est à moins 80%.
C'est étonnant.
C'est voilà.
Étonnant, en fait, qu'ils aient gardé le droit de.
Je ne sais pas comment ils sont démerdés, très honnêtement.
Ok, mais donc il est toujours.
Mais accessible. J'imagine que c'est une histoire de. Vu qu'il n'y a pas de DRM, on peut le studio 2K peut le pull par DRM.
Peut-être.
Parce que, en fait, je ne sais pas si ce sont les développeurs. En fait, je ne sais pas. Comme tu sais, c'est. Il y a une curation sur GOG, et je sais pas si contrairement à Steam où ce sont les studios qui possèdent leur page, entre guillemets,
oui.
L'administration de leur page, je sais pas si c'est le cas sur GOG, et ça m'étonnerait.
Disons qu'ils ont un contrôle bien plus important.
Ouais, ouais.
Google Games fait du choix.
Et bon, le truc, c'est que s'il est à 80%, c'est peut-être que ça restera pas très longtemps.
Peut-être qu'ils des contrats ou des règles différentes qui font que pour l'instant, il est toujours disponible. C'est possible.
Bon, assez parlé de jeux vidéo, si on parlait de grève plutôt.
Oui, de Ubisoft donc.
Oui, et voilà. Ah, c'est marrant, grève, c'est toujours Ubisoft. Hein.
C'est toujours pour les pauvres.
Non, mais voilà.
Franchement, c'est de l'acharnement.
Donc, en fait, exactement. Le plus simple, c'est d'expliquer le pourquoi avec le communiqué du syndicat des travailleurs de jeux vidéo, qui donc a fait appel à la grève chez Microsoft.
Non, chez Ubisoft.
Chez... Oh, c'est pareil.
À quelques milliards d'écart.
Faut pas,
quelques dizaines de milliards d'écart.
Ouais, plutôt ça. Ces dernières semaines avaient lieu les négociations annuelles obligatoires portant sur les salaires dans plusieurs entités d'Ubisoft en France et le STJV était bien évidemment présent. Malgré les efforts concertés des organisations syndicales pour trouver un compromis acceptable, les négociations se sont heurtées à un mur, prétextant une politique de réduction de coûts et purement arbitraire. Là, je parle, je dis l'attrition naturelle.
Oui, la fameuse attrition naturelle évoquée par je ne sais plus qui l'année dernière.
C'est pas Guillemot en personne.
Peut-être.
C'est pas Yves Guillemot en personne.
Oui, avec en même temps que la balle de revolver est sur votre tempe dans votre camp.
C'est ça.
Oui, oui, celle-là.
Donc, la direction a proposé un budget d'augmentation inférieur à l'inflation pour la seconde année de suite.
Ok.
Comment corréler ce mépris avec les exhortations de notre PDG à gagner en agilité et en efficacité ? Comment pourrions-nous accepter un niveau d'augmentation si bas quand l'entreprise se vante, je cite, d'un second trimestre bien au-delà de nos attentes, tout en voulant rendre exceptionnel l'engagement exceptionnel des équipes ? Pardon, tout en voulant rendre hommage à l'engagement exceptionnel des équipes. Donc en les payant moins que l'inflation. Ce système de récompense nous semble bien mal équilibré. La conclusion s'impose. Les réductions de notre niveau de vie, pour les dirigeants d'Ubisoft, ce n'est pas un bug, c'est une feature. Qu'une entreprise qui continue à faire des bénéfices malgré une direction multidéficiente décide de faire payer les employés pour augmenter ses profits est tout simplement inacceptable. C'est pourquoi nous invitons en commun avec les autres organisations syndicales de lutte présentes chez Ubisoft à une grève toute la journée du mercredi 14 février pour toutes les entités françaises appartenant au groupe Ubisoft.
Ok.
Voilà. Donc fin du communiqué. Donc on apprend chez Ubisoft, les discours voulant mettre les responsabilités sur les employés et dédouanant largement les directions pour les problématiques de ces dernières années sont toujours de mise. Encore plus lorsque l'entreprise dit qu'elle va mieux, mais c'est pas pour ça qu'on va augmenter les gens.
Et s'ils augmentent les gens, comment tu veux qu'ils aillent mieux ? Réfléchis deux secondes aussi.
Ah là 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 là, quel horrible personnage tu es. Quel horrible personnage tu es. Je te verrai bien à la direction, au conseil d'administration d'Ubisoft.
Eh oui.
Voilà. Mais bon, en même temps, Bobby t'a tout appris. Donc.
Ouais, oui, oui, non, mais c'était ton idole. Hein.
Ça l'est toujours.
Ne change pas les rôles.
Ça l'est toujours.
Oui, oui.
Encore plus depuis qu'il n'est plus dans le jeu vidéo.
Ah oui.
Je l'adore encore plus.
Quand tu vas le retrouver, je pense que tu seras un peu déçu.
Ah bah, écoute. Non, parce que voilà, j'ai toujours dit, hein, y a, dans la vie, il y a des Bobby Kotick et il y a des John Ridicello, c'est-à-dire des bons et des mauvais.
C'est ça,
voilà.
Des gens qui ramènent beaucoup de pognon et qui se barrent avec beaucoup de pognon,
voilà.
En ayant pourri la vie de tous les gens avec qui ils travaillaient pendant ces années-là.
C'est ça.
Et puis ceux qui ont des idées à la con, mais
ouais.
Qui sont recrutés par différentes boîtes quand même.
Oui.
Et qui
pourrissent le capital des entreprises où ils sont,
voilà.
Et se barrent et se font jeter à coups de pompe dans le cul après.
Voilà, c'est intéressant comme concept. On ne sait pas où il va finir, hein, mais on sait qu'il va finir quelque part.
Bah, je serais pas étonné qu'on le revoie dans le jeu vidéo, le Ritticello.
Mais c'est marrant parce que je reviens sur les revendications,
ouais.
Clairement, du STJV. Un truc dont on n'a pas réellement encore parlé, mais qui mériterait, c'est l'enquête du GDC. L'enquête du guide de la Game Developer Conference,
ouais.
Qui a posé beaucoup de questions aux développeurs dans le monde entier, et précisément sur la question des revenus, enfin des salaires, et des augmentations. L'année dernière, en tout cas, 54% des travailleurs dans le monde du jeu vidéo ont déclaré ne pas avoir obtenu d'augmentation.
Bah tiens.
Et quand on ramène ça, et on parle du monde entier, mais il y a des pays où l'inflation a été plus ou moins violente.
Vilaine.
Agressive.
Ouais.
Et du coup, voilà, voilà, on se rend compte qu'effectivement, 54% des gens qui ont répondu à l'enquête, finalement, c'est des gens qui ont vécu la même chose que la proposition, en tout cas, d'Ubisoft de ne même pas, enfin, d'augmentation qui ne suit absolument pas le coût de la vie aujourd'hui.
Voilà. Et on rappelle qu'en 2023, l'industrie n'a jamais gagné autant d'argent que jamais. Voilà.
Oui, oui.
Ils n'ont jamais gagné autant d'argent.
Peut-être que, oui.
Et ils n'ont jamais autant licencié non plus.
Voilà. Est-ce que c'est lié?
Je ne sais pas. Je ne sais pas.
À un moment ou un autre, ça va leur tomber sur le coin du nez.
Ouais, mais on sait qui paiera les pots cassés, c'est pas ceux qui dirigent.
Non, non, et ceux qui paieront les salaires des hauts placés, c'est ceux qui achèteront les jeux.
Évidemment. Achetez Palworld.
Alors, Palworld, c'est un petit studio d'une vingtaine de personnes, je le mettrai pas dans le même...
Ah oui, c'est vrai qu'ils sont indépendants.
Complètement.
Parce que c'est vrai que dans ma tête, je sais pas pourquoi, c'était un truc que Tencent avait foutu la
pile. C'est du japonais, hein.
Tencent qui achète des studios japonais
ou le PIF d'Arabie Saoudite mais toujours est-il que oui, à suivre ce préavis de grève, et je pense qu'on pourra en parler avec le STJV qui sera présent à l'Indie Game Lyon.
Exact.
Et on en reparlera encore la semaine prochaine.
Oui. Une petite dernière news.
Bah vas-y, on en
écoute, il nous reste 15 minutes, mais là j'ai envie de parler féerie.
Oula, tu m'inquiètes.
Oui, parce que on a eu une petite surprise hier durant la présentation des résultats de Disney. Parce que sorti du monde du développement pour laisser ces différents éditeurs exploiter les nombreuses licences, c'est-à-dire que Disney n'a quasiment plus de studios de développement. Mm-hmm. Ils en avaient plein, les licences, ils les faisaient eux-mêmes avec leurs studios. Ils ont tout dégagé, tout vendu à tout le monde, et maintenant ils ont dit, maintenant les éditeurs tiers, faites nos jeux. Mm-hmm. Et de manière générale, on verra si c'est une bonne idée ou pas. Mais en tout cas, là, ils ont décidé d'investir au capital de Epic Games pas moins de 1,5 milliard de dollars.
Alors, Microsoft rigole, mais en voyant une somme pareille.
Mais quand même.
En tout cas, de côté Disney, oui, c'est pas la première fois que Epic est approché par des énormes groupes pour leur proposer plusieurs milliards. Lego, c'était 2 milliards.
Mm-hmm. C'est ça.
Notamment. Mais effectivement, oui. Mais du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce... Enfin, c'est quoi le partenariat, le projet
Eh ben, de quoi se payer une place de choix dans Fortnite. Mais le mieux, c'est d'écouter Tim Sweeney, PDG et fondateur de Epic Games.
Alors, tu te laveras les oreilles après, donc... après, tu te laver la bouche, parce que Tim Sweeney, c'est quand même costaud.
Alors, Disney a été l'une des premières entreprises à croire au potentiel du rapprochement de leur monde avec le nôtre dans Fortnite. Et ils utilisent Unreal Engine dans l'ensemble de leur portefeuille de jeux, de films et d'attractions. Aujourd'hui, nous collaborons sur quelque chose d'entièrement nouveau pour construire un écosystème persistant et ouvert et interopérable qui réunira les communautés Disney et Fortnite.
Ça sonne comme une menace quand tu le dis comme ça.
Ça sonne bullshit.
Aussi, mais
ça sonne gros bullshit. Alors en fait... Avant, comme je le disais, Disney, c'était un éditeur qui disposait de multiples studios, dont la plupart a fermé.
Dans le jeu vidéo, hein. Dans,
de si studios de jeux vidéo, non, parce qu'ils ont des studios d'animation, ils ont des studios de cinéma, ils ont même des studios de parcs d'attractions, ils ont des studios d'un peu tout. Mais là, ils avaient plein de studios de jeux vidéo, et il y en a un qui n'a pas fermé, qui s'appelle Avalanche Software. Et Avalanche Software a signé l'année dernière le jeu le plus vendu de 2023 pour le compte de Warner. Mm-hmm. Comment s'appelle ce jeu ?
Hogwarts Legacy.
Hogwarts Legacy.
D'une petite licence pas très connue, avec une sorte de magicien qui s'appelle Harry. C'est ça.
Licence qui n'appartient pas encore à Disney. Disons que elle a de beaucoup de glissements sémantiques, Madame Rowling. Mais sa licence là-dessus, elle sait la protéger.
Oui. Quand il dit histoire de façon de faire du pognon, elle est là.
Hein. Oh, voilà, là ça va. En fait, voilà, le truc, c'est que Disney, depuis 2016, ils ont basculé dans un modèle basé sur l'exploitation de ces licences par des tiers avec des résultats divers. Bien sûr, dans les réussites, on entend Spider-Man. Mm-hmm. qui est une licence Disney, vu que...
Le 2, non, c'est ça
le 1 est... Si, c'est depuis 2016, donc le 1 et le 2.
Le 1 et le 2, mais le con est vraiment tout pété.
Le 2 a réellement tout pété cette année
même
aussi.
Même au niveau critique.
Ouais, ça a bien bien marché, hein, voilà. Tu as aussi voilà, Marvel Spider-Man qui est fait par Insomniac Games, ou alors les jeux de Respawn Entertainment, donc les Star Wars Jedi.
Oui, Fallen Order.
Voilà. Oui, parce qu'on oublie toujours, mais c'est des jeux Disney, tout ça. Oui. C'est des licences Disney.
Oui, parce qu'ils ont racheté.
Mais c'est Disney qui a décidé de dire à Respawn, avant ils disaient on fait tout chez nous. Mmh. Et maintenant ils disent on va laisser des grands faire. Et puis c'est toujours le cas avec les prochains Star Wars Outlaws, le Indiana Jones qui a l'air effroyable.
Ils divisent, on va dire.
Ouais, c'est ça.
Ah, c'est Machine Head Games, c'est ça?
Ouais, Machine c'est ça.
Games,
ouais.
Je sais plus,
c'est Machine Games.
Machine Games, bon, ils avaient fait les Wolfenstein.
Ouais, et puis je sais pas, il y a un jeu Blade qui arrive, hein, et puis Blade, c'est Marvel.
Et c'est Arkane.
Et c'est Arkane Lyon. C'est Arkane Lyon, c'est ça. Voilà.
Bon
ben voilà, hein. Donc le principe, ce sera de faire une sorte de monde persistant Disney à l'intérieur de Fortnite.
Oui, un parc d'attractions.
Un parc d'attractions, hein. On rappellera d'ailleurs que fin septembre 2023, Epic Games a supprimé 870 emplois, donc soit 16% de ses effectifs. Et à l'époque, le dénommé Tim Sweeney disait: depuis un moment, nous dépensons bien plus d'argent que nous n'en gagnons. J'ai longtemps été optimiste quant à notre capacité à traverser cette période de transition sans licenciement. Mais avec le recul, je me rends compte que ça n'était pas réaliste. Gageons qu'avec ce 1,5 milliard en plus, il puisse réemployer tous les gens qu'il a virés.
Alors, oui, sans compter les milliards rapportés par Fortnite.
C'est ça.
Qui, à mon avis, compense largement les millions, les dizaines de millions de pertes de l'Epic Game Store.
Voilà. Hein. Et puis, merci de foutre la paix à Bandcamp. Merci bien.
Ça, on est où cette affaire?
Ça a été racheté par des vendeurs de licences. On va voir ce que ça donne.
Pour l'instant,
c'est statu quo. Mais par contre, toute la partie éditoriale de Bandcamp a été virée. Il reste que la plateforme.
Ok.
Voilà.
Bien, bien.
voilà.
Bien, bien, bien.
Moi,
j'arrive au bout.
Je suis arrivé au bout.
D'accord.
J'ai tout fait.
Tu vas beaucoup trop vite.
Oui, c'est vrai. Je vais beaucoup trop vite, mais on n'avait pas de sujet de gros. On n'avait pas de gros sujets de fond. C'était très.
Oui, voilà. Il a fallu rattraper un peu. Des sujets qu'on n'avait pas prévus.
C'est ça.
On va le dire comme ça.
C'est ça. Bah, donc, coup, tu as enfin tes 10 minutes pour parler de The Day Before.
Ah, tu veux que je parle de ça?
Parce que tu m'as promis une news très sympa que je ne connais pas et je ne suis pas renseigné dessus. Non.
Tu n'avais pas suivi donc la dernière info qu'on avait sur The Day Before. Alors, dans l'émission précédente, il y a deux semaines, on avait évoqué la partie, on va dire, développement de la hype, plus précisément. Développement de la hype qui avait poussé le jeu à être en tête des wishlists sur Steam en vendant quelque chose visuellement, en vendant un gameplay, en vendant pas mal de choses, en présentant en tout cas, en promettant pas mal de choses pour finalement repousser le jeu plusieurs fois, mentir plusieurs fois éhontément sur les causes des reports jusqu'à quand même que des gens impliqués finalement dans la gestion de la communauté, donc les community managers, se demandent officiellement et publiquement, est-ce que le jeu existe vraiment? Quand le jeu est sorti en novembre,
c'est ça.
Je pense que tout le monde aurait préféré qu'il ne sorte pas. Enfin,
c'est compliqué. On n'a eu que 4 jours pour savoir, pour pouvoir y jouer. Hein, donc,
Pour pouvoir l'acheter.
Oui, c'est ça.
Parce qu'après, les serveurs étaient vivants pendant quelques temps. Mmh. Mais bref. Mais en tout cas, voilà, le jeu était absolument pas ce qu'il prétendait être. Mmh. S'est fait rembourser en masse sur Steam. On a eu des nouvelles, vite fait, des créateurs.
Oui, qui avaient, il me semble, ils avaient dit, je me souviens de, qu'ils avaient sorti
une dinguerie
à base d'excuses de.
Non, c'est pas des excuses, c'est pour trouver des coupables.
Oui, c'est ça, des boucs émissaires. Enfin, voilà, des boucs émissaires, en gros, que c'était la faute de certains influenceurs qui avaient mal parlé du jeu et que s'ils avaient bien parlé du jeu, ça serait super bien vendu.
C'est ça, alors que le seul qui a bien parlé du jeu, Dr. Disrespect, hein, mm-hmm. Bon, salut à lui.
Oui.
Gros respect hein, pour effectivement ton intégrité. Le seul qui a bien parlé du jeu, finalement, et ça n'a pas suffi, hein.
Voilà.
Alors que ce gars a quand même une sacrée communauté.
Voilà, sachant que Dr. Disrespect est connu pour, en gros, prendre des chèques, clairement.
Oui, voilà.
Et, et pour le coup, ils s'en cachent pas.
Au moins, c'est déjà ça. Mais techniquement, effectivement, le jeu n'était pas du tout au niveau. Ça, on l'avait évoqué rapidement il y a deux semaines. Ce qu'on vient d'apprendre par différents témoignages, si je ne dis pas de bêtises, c'est que les développeurs ont été traités... Alors, chez Ubisoft, bon, c'est compliqué. Hein, entre les accusations d'agression sexuelle, d'environnement toxique, c'est une ambiance. Là-bas, c'était particulier également. Enfin, les mecs bossaient 6 jours sur 7, voire 7 jours sur 7.
Ouais.
Des horaires hallucinants, pas forcément payés.
Oui. Avec... Ça, on l'avait subodoré, ça, hein, avec leur panel de volontaires, là.
Oui, c'est ça. Mm. Et surtout, en fait, c'était lié au fait que les deux créateurs, donc deux frères, si je ne dis pas de bêtises, pour ce studio, qui en fait, à chaque fois qu'ils voyaient un jeu sortir ou qu'ils voyaient une fonctionnalité dans un jeu, disaient ah bah ça il nous faut dans le jeu. Du coup, les mecs, les développeurs en fait, essayaient de rentrer ça au chausse-pied dans un jeu qui n'était pas du tout fait pour, dans un système qui n'était pas du tout fait pour, un moteur qui n'était pas préparé pour ça. Donc, on parle par exemple du créateur de la création de personnages de Baldur's Gate 3,
oui.
Des choses donc quand même extrêmement travaillées, extrêmement profondes. Rajouter ça dans un jeu de survie avec des zombies, enfin. C'était à la fois complètement disproportionné et pas du tout crédible, enfin pas du tout réaliste par rapport aux moyens qu'ils y mettaient.
Non, mais c'est bien parce que finalement Molineux a des enfants spirituels, quoi.
Oui, c'est ça. Il a créé cette logique de tiens, j'ai vu un truc, j'ai dit un truc devant la presse, donc maintenant, messieurs les développeurs, allez travailler sur le.
C'est la carrière de Molineux, ça. Hein,
c'est
donc,
comme ça concret, non? Enfin.
Non, mais voilà, il y a des gens. Les frères, là, c'est pas des faiseurs, d'accord? Ce sont des rêveurs.
Oui, mais avec des fouets. Avec des fouets, avec des clous.
Des rêveurs avec des fouets, voilà.
Ouais, avec des clous au bout, parce que les mecs faisaient quand même, donc, entre les conditions de travail compliquées, le fait qu'eux, ils étaient jamais au studio, donc bon, voilà. Et s'il fallait bosser, il fallait bosser fort, hein, mais pas eux.
Mm-hmm.
Et ils mettaient des amendes aux gens quand le travail était mal fait.
C'est pas légal, ça. À part peut-être en Russie, j'en sais rien.
Peut-être en Russie, même si le jeu officiellement est localisé à Singapour.
Je connais pas les lois singapouriennes non plus.
Moi non plus, mais à mon avis, c'est quand même un paradis du libéralisme.
Oui, oui.
Bon, bref, en attendant, c'est comme ça qu'ils géraient leur équipe. Et du coup, c'est un ensemble de choses qui, comme tu dis, ne surprend pas. Entre les promesses, entre ce qu'on avait vu, le downgrade graphique, c'est-à-dire que les premières vidéos qu'ils nous avaient montrées étaient très, très, très réussies graphiquement.
Ouais.
Et ce qu'on a vu par la suite l'était beaucoup moins et le jeu l'était encore beaucoup beaucoup moins.
Ouais, et puis
vraiment du travail.
Et puis souviens-toi l'appel aux volontaires en gros qu'on fait ça entre justement des
il y avait deux types de volontaires,
les volontaires payés et ceux qui sont pas payés, quoi, enfin
c'est pas payé, et voilà.
Et bon. Ça c'était bien avant la sortie déjà et ça puait du cul, quoi.
C'est ça, clairement. Ouais. Et ça repose, en tout cas ça ne libère pas de la question l'éditeur de ce fiasco, enfin de ce
si c'est un fiasco
de cette, non mais de cette honte, enfin clairement, ouais. Du début à la fin c'était une honte, ce truc. Et Mitona, donc je pense que ça veut pas dire la même chose en russe, hein, mais
Mito
le début, bon, voilà.
Et Mitona ne Mitona, hein.
Et enfin eux, voilà, ils ont accompagné le projet jusqu'au bout. Alors ils l'ont accompagné jusqu'au bout, jusqu'à son remboursement massif. Tant mieux pour eux. Enfin,
ouais.
C'était le minimum, on va dire. Mais effectivement, qu'est-ce que faisaient ces gars-là sur la vérification des conditions dans lesquelles le jeu était produit, du respect du cahier des charges, d'une certaine façon, des promesses. Eux-mêmes ont dû être. Enfin, un éditeur, tu viens pas le voir avec. T'inquiète, frère, ça va bien se passer.
Ouais, alors la vraie question, c'est est-ce que Mitona s'est embarqué une fois que le buzz avait commencé ou pas?
C'est un. Il faudrait revenir sur le.
Parce qu'ils se sont peut-être dit, peu importe, vu le buzz, on va quand même rentrer dans nos sous, dans nos frais, quoi.
Et du coup, la dernière info, plus ou moins rumeur pour l'instant, qui reste donc à confirmer, c'est que les deux frères qui géraient le studio Fantastic,
ouais.
Seraient sur un nouveau projet de jeu vidéo.
Ah, vivement!
Vivement qu'on en sache plus sur comment ça se passe,
mais
qu'est-ce qu'ils vont
faire, c'est...
et qu'est-ce qu'ils vont nous promettre cette fois-ci.
Oui, c'est
parce
clair.
Parce que leur excuse sur le résultat désastreux, ça restera cette phrase magique.
Disaster a dit que c'était bien.
Ça va plus loin. C'est en deux mots, hein, ça tient en deux mots. Shit happens.
Oui, voilà.
On en est là. Enfin, je veux dire, les mecs, ont fracassé un truc alors qu'ils en avaient vendu des dizaines de milliers, je sais plus combien.
C'était en centaines de milliers.
Et enfin, hallucinant, et voilà.
Et
que ces gars-là aient encore des ambitions dans l'industrie, c'est. Je sais pas trop comment dire. C'est une absence de vergogne complète.
Ouais. Bah, disons que le vrai problème, c'est qu'avec des méthodes horribles comme ça, il y a des très bons jeux qui sont sortis. Typiquement, Ori a été fait dans des conditions absolument horribles, paraît-il, et c'est un super jeu. Et c'est pour ça que c'est compliqué. c'est compliqué après de
Julien
dire.
Julien Chiesise,
hein,
a justifié le crunch. Julien Chiesise, voilà.
C'est non, ça. C'est pas ça. C'est que va dire justement après à des gens qui ont justement pas de scrupules.
Qu'il
faut pas le faire, c'est pas bien.
Oui, lui, quand fait, et ça s'est très bien passé.
C'est ça, c'est exactement ça. Ah ouais. C'est exactement ça. Et non, ça reste des techniques de chien et le faites pas, quoi, bordel. Donc voilà.
Je pense que c'est une bonne façon de terminer l'émission.
Très bien.
Sur une bonne phrase.
Très bien. Eh bien, merci de nous avoir écoutés. C'était le nerf de la game. On se retrouve d'ici la semaine prochaine avec les organisatrices de l'Indie Game Lyon. Et puis d'ici là, jouez et si possible à plein de démos du NeoFest.
Oui, profitez-en, c'est encore jusqu'à lundi 12 février.
Voilà, faites-vous plaisir. Ciao.
Bonne soirée.